Vous écoutez RTL.
Il est midi et demi.
RTL midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h pour un point complet sur l'information. Et en ce mardi 9 octobre, on attend un remaniement du gouvernement. Édouard Philippe a passé 2 heures en tête-à-tête ce matin avec le chef de l'État à l'Élysée. Mais pour l'instant, pas de démission du gouvernement et encore moins de nouvelle équipe. Nous serons à l'Élysée, à l'Assemblée nationale et Alain Duhamel nous rejoindra en studio. Ce n'est pas la foule des grands jours, mais c'est un marqueur. Première mobilisation syndicale de la rentrée contre la politique sociale d'Emmanuel Macron. Une centaine de cortèges dans toute la France. Nos prisons ne sont pas floutées par Google, y compris celle où se trouve l'évadé multirécidiviste Redouane Faïd. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, s'en est inquiétée ce matin sur RTL. L'imprudence des cyclistes, 6 sur 10 sont peu ou mal éclairés et le nombre de morts ne cesse d'augmenter. La prévention routière lance une campagne de sensibilisation. La météo, bonjour Louis Baudin.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
Au moins ça ne manque pas de lumière.
Exactement, le soleil dominera encore largement dans la moitié nord. Dans la moitié sud, ce ne sera pas toujours le cas. Alors si, il dominera du côté des Pyrénées, de l'Aquitaine ou encore entre les Alpes et la Corse. Mais c'est vrai qu'entre le Languedoc-Roussillon, l'Occitanie donc, et la région Midi-Pyrénées. Là, ça restera plus instable avec des averses parfois accompagnées d'orages, puis beaucoup de vent d'automne jusqu'à 80 km/h. Ça n'empêchera pas les températures de rester partout au-dessus des moyennes de saison. On sera entre 21 et 26 degrés au nord comme au sud.
La question du jour sur RTL.fr, le remaniement peut-il donner un second souffle à Emmanuel Macron? Vous dites non à 73%, 22% de oui. Vos appels au 3210, vos réactions sur Facebook et Twitter. Bonjour Pascal Pro.
Bonjour.
Je suppose que ce sera le débat du jour.
Ça sera l'un des débats du jour, comme tous ceux que vous avez abordés dans ce sommaire. Mais parlons de Jacques Brel également. Ça fait 40 ans, jour pour jour, qu'il est décédé. Et notamment si vous êtes d'une jeune génération, est-ce qu'il est toujours présent pour vous? Si vous avez 25 ans, 30 de 10, appelez-nous. Est-ce que vous chantez toujours du Jacques Brel?
Au 3210, RTL vous donne la parole.
C'est bien connu, Emmanuel Macron aime être le maître des horloges et il prend son temps avant le remaniement. Une seule certitude, il y aura un nouveau gouvernement pour le Conseil des ministres demain matin. Mais combien seront-ils à sortir? Quelle sera l'ampleur de ce changement d'équipe qui doit donner un nouveau départ à l'exécutif après une rentrée compliquée? Le Premier ministre, en tout cas, a passé 2 heures ce matin en tête-à-tête avec le chef de l'État avant de rentrer à Matignon. Dominique Tenza, vous êtes devant le palais de l'Élysée pour RTL. Mais Édouard Philippe n'a pas remis la démission de son gouvernement.
Et non, c'est vrai qu'on aurait pu s'y attendre, hein, au terme de cet entretien improvisé ce matin. C'est l'usage, le chef du gouvernement remet sa démission et celle de ses ministres au président, qui le renomme dans la foulée et puis dans les heures qui suivent, est annoncée la composition du nouveau gouvernement. Ce n'est pas le scénario qui se dessine, en tout cas pas à ce stade. Matignon n'exclut pas une démission d'ici la fin de la journée, peut-être demain matin, mais c'est pour l'instant trop tôt. Ça veut dire quoi? Eh bien, tout simplement qu'ils ne sont pas prêts, ni l'Élysée, ni Matignon, qu'il reste des détails à régler, des arbitrages à faire. C'était l'objet ce matin de ce long petit déjeuner et manifestement le casting n'est pas au point. J'ai croisé il y a quelques minutes ici un conseiller du président qui m'a dit avec un petit sourire, vous risquez bien d'attendre encore quelques heures. Il avait l'air plutôt serein, pas vraiment échaudé par la pression extérieure et d'ailleurs c'est un peu ce que vous rappeliez au début, hein. Il veut être Emmanuel Macron, celui qui donne le rythme, qui décide quand, où, comment et avec qui. Et à l'un de ses proches qui lui demandait ce matin quand est-ce qu'on aura le nom du nouveau gouvernement, le président a répondu « quand je serai prêt ». Pour l'instant, c'est l'heure du déjeuner. Il s'apprête à passer à table avec son homologue ouzbek en visite officielle. Il est midi et demi et la vie continue ici à l'Élysée.
Dominique Tenza devant le palais de l'Élysée pour RTL. Édouard Philippe n'est pas venu ce matin au petit déjeuner de la majorité à l'Assemblée nationale et les députés là-bas, Julien Fautra, sont en mode suspense.
Oui, en effet, c'est le flou. Ici, aucune information ne filtre. Édouard Philippe doit être présent au Palais Bourbon cet après-midi pour répondre aux députés. Pas de démission prévue à ce stade avant les questions au gouvernement. Résultat, l'opposition, comme le centriste Philippe Vigier, par exemple, s'impatiente.
Il est grand temps qu'on se ressaisisse parce que pendant ce temps-là, la France ne va pas très bien. Et 3 ministres d'État, il n'y en a plus. C'est l'omerta absolue, c'est normal. Lorsqu'on constitue un gouvernement, on ne dit rien, on attend. Et écoutez, maintenant, on se rend en même temps que vous. À tout à l'heure, donc.
Bien difficile de croiser un député La République En Marche. Aucun commentaire, si ce n'est Hugues Ranson qui tente de minimiser la portée politique de ce remaniement.
Il ne faut pas en attendre un changement de ligne politique. Il faut, dans les moments turbulents que nous avons vécu, et je crois qu'il faut le reconnaître, hein, la rentrée a été difficile, avoir ce nouvel élan, ce nouveau souffle. Il est normal de prendre du temps.
ce temps qui paraît bien long, même pour les députés qui, en attendant la nomination du ou des nouveaux ministres, s'échauffent avant une séance de questions à un gouvernement en sursis. Une séance qui s'annonce houleuse cet après-midi à l'Assemblée.
Julien Fautra, en direct de l'Assemblée nationale. Alors, en studio avec nous, Alain Duhamel, pour décrypter cette interminable attente. Bonjour Alain.
Bonjour.
Le Premier ministre a donc été reçu ce matin. Il n'a pas remis sa démission. Que faut-il en déduire ?
Qu'il y a toujours deux possibilités qui sont ouvertes, même s'il y a quand même une probabilité. Les deux possibilités, c'est soit un remaniement technique, donc poste pour poste. Bon, c'est la solution minimaliste. Disons qu'elle entraîne rarement des effets très sensibles. Mmh. Hein, c'est plutôt de la défensive, en réalité, dans ces cas-là. Il y a une autre solution qui, normalement, est la plus probable et qui serait la plus logique, en tout cas aujourd'hui, surtout s'ils veulent redémarrer. C'est évidemment un vrai remaniement gouvernemental, c'est-à-dire le Premier ministre présentant la démission du gouvernement. Une nouvelle liste présentée sur le perron de l'Élysée, un conseil des ministres, une photo de famille, et puis ensuite un discours de politique générale à l'Assemblée, et puis un vote de confiance. Bon, c'est un scénario qu'on connaît, qui est beaucoup plus solennel, qui est beaucoup plus théâtral, qui est évidemment scénarisé, et qui, dans ces cas-là, implique qu'en réalité, ça ne soit qu'un préalable. C'est-à-dire que dans un cas comme ça, un vrai large remaniement, ça implique aussi des changements dans l'expression présidentielle, par exemple, et aussi forcément des corrections de trajectoire. Mmh. Autrement, ça n'a pas de sens. Ça n'est que la première étape.
Mais il y a une autre question. Gérard Collomb, il a démissionné il y a quand même une semaine déjà. Est-ce que ça veut dire qu'au fond, c'est difficile aussi de trouver des bons profils en Macronie ?
C'est très difficile de trouver des profils, de toute façon, pour le ministère de l'Intérieur. Mmh. La preuve, c'est que ça s'est pas si bien passé que ça avec celui qui partit. Bon, par ailleurs, il y a un choix à faire entre est-ce qu'il faut mettre un politique, mais alors il faut qu'il ait du poids, ou bien est-ce qu'il faut mettre un grand technicien. Les deux choses ont été essayées, hein, et beaucoup utilisées sous la Ve République. Un grand politique, encore faut-il en avoir un. De disponible, ayant vraiment un poids. En réalité, ce serait plutôt quelqu'un qui est déjà au gouvernement et qu'on déplacerait. Voilà. Bon, ça serait donc pas non plus une surprise totale pour les Français. Et l'autre possibilité, c'est un grand technicien. Alors, il y a toujours les mêmes noms qui circulent, qui ont comme caractéristique d'être inconnus des Français, mais qui sont en revanche connus des services. C'est la solution, disons, la moins efficace en théorie. En réalité, ce qui marche très souvent bien, qui a été utilisé positivement souvent, c'est un politique en numéro 1, flanqué d'un grand spécialiste en numéro 2. C'est ce qui est rationnel. Ça ne veut pas dire qu'ils aient les hommes ou les femmes correspondant à ces profils-là à leur disposition. Et moi, je pense que si ce remaniement, la préparation dure depuis si longtemps, 8 jours quand même, c'est qu'ils ont du mal à recruter. C'est pas tellement qu'ils savent pas ce qu'ils veulent, c'est qu'ils n'ont pas les gens qu'ils voudraient avoir.
Ça veut dire que de toute façon, ce sera un remaniement large quand même.
Écoutez, c'est la logique.
S'il y a juste une personne à remplacer, on ne peut pas une semaine.
Surtout si au bout de 8 jours, on dit on remplace Monsieur X par Monsieur Y. Franchement, on y voit difficilement à ce moment-là un nouvel élan.
Alain Duhamel, qui va sortir renforcé de cet épisode ? Édouard Philippe ou Emmanuel Macron ?
Moi, je pense que c'est Édouard Philippe, parce qu'un Premier ministre reconduit et avec une nouvelle équipe, c'est un Premier ministre qui est renforcé. Par ailleurs, depuis 3 mois où les affaires d'Emmanuel Macron ont été assez tumultueuses, on a bien vu qu'Édouard Philippe tenait bon, avait du sang-froid, avait même de l'humour, ce qui est très rare en politique, et qu'il était celui qui donnait le sentiment de résister au moment où, dans le reste du gouvernement, on n'entendait pas tellement d'expressions, ni d'ailleurs dans les rangs de la majorité. Donc oui, je crois que c'est lui qui sera renforcé. Pour Emmanuel Macron, il ne peut y avoir renforcement que si le remaniement est le préalable à ne serait-ce qu'un grand discours pour dire où il veut aller, comment il veut aller et quelles conséquences pour les Français.
Merci Alain Duhamel pour ce décryptage. Et l'homme par qui tout est arrivé, Gérard Collomb, compte bien récupérer son fauteuil de maire de Lyon le plus vite possible. Un conseil municipal extraordinaire sera organisé le 5 novembre. Dans un instant, Google et les bâtiments sous haute sécurité, beaucoup ne sont pas floutés.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Le 1er juillet dernier, Redouane Faïd s'évadait de la prison de Réau en Seine-et-Marne. 3 mois après, alors qu'il est désormais incarcéré à Vendin-le-Vieil, ces deux bâtiments sont toujours visibles sur Google. Pas de floutage. Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, a avoué son impuissance ce matin sur RTL.
J'ai écrit à Google pour demander qu'il y ait des mesures qui soient prises pour retirer ces établissements pénitentiaires. Pour le moment, ça n'a pas été suivi des faits.
Bon alors comment vous...
Eh bien écoutez, je ne sais pas.
Ça veut dire qu'on
n'a
aucun
demander...
recours, vous, la ministre de la Justice. Vous n'avez aucun pouvoir sur cette entreprise.
Je vais peut-être maintenant passer à des mesures autres, mais
Qu'est-ce que ça pourrait être ?
Ben, je ne sais pas, je vais demander à rencontrer les personnes qui sont en charge de ces questions-là. Je vais peut-être essayer de voir les personnes auxquelles j'ai écrit.
Nicole Belloubet avec Elisabeth Martichou. Rien n'a changé donc, mais il n'y a pas que les prisons. D'autres bâtiments hautement sensibles ne sont pas floutés par le géant américain, Sophie Jousselin.
Oui, et la liste des bâtiments qu'il est interdit de photographier et de filmer est très précise. Elle est définie par l'arrêté du 27 octobre 2017. Au total, 247 sites sont mentionnés, les prisons, les centrales nucléaires et des zones militaires. Et dans les faits, eh bien, beaucoup de ces sites ne sont toujours pas floutés. Si la majorité des centrales nucléaires le sont, à quelques exceptions près, hein, comme Flamanville ou le Tricastin. Ce n'est pas le cas des prisons, très peu le sont, c'est le cas de celle de Saint-Martin-de-Ré. En revanche, vous l'avez dit, hein, celle du Réau, d'où s'était évadué Redouane Faïd, est parfaitement visible. Du côté de Google, on explique que les images proviennent de différents prestataires et que c'est à eux de les flouter. Parmi ces prestataires, il y a l'IGN, l'Institut National de l'Information Géographique. Il affirme que les sites sont bien floutés, mais uniquement sur les images prises depuis la publication de l'arrêté, donc depuis un an maintenant, mais pas sur celles prises avant et que les images sont renouvelées en général tous les 3 ans. Mais les choses devraient s'accélérer chez Google. On m'a affirmé tout à l'heure que des échanges ont lieu entre les différentes parties et que le floutage total était une question de semaine. On vérifiera.
Une question de semaine, donc on s'en souviendra. Merci Sophie Jousselin, on revérifiera dans quelques semaines. Les syndicats se rappellent au bon souvenir de l'exécutif avec une journée de mobilisation interprofessionnelle, une centaine de cortèges aujourd'hui dans toute la France. La CGT, Force Ouvrière, Solidaire, l'UNEF et 2 syndicats de lycéens dénoncent une politique idéologique qui fragilise les précaires et les plus faibles. Alors on est loin de la mobilisation contre la loi travail et au Havre, ce matin, dans la ville d'Édouard Philippe, il y avait environ 5000 personnes dans le cortège, Frédéric Veil.
Oui, le cortège est parti peu après 10h30, direction l'hôtel de ville. Un cortège où les militants CGT sont très présents, aux côtés des dockers et des retraités, comme Marcel, 78 ans, qui voulait absolument être dans la rue aujourd'hui.
Bien sûr que c'est important, avec toutes les retraités qui sont maltraités par le gouvernement. C'est pour ça qu'on est là encore une fois. Moi, je perds 800 euros l'année. Donc, on ne lâchera rien de toute manière.
Malgré tout, il y a beaucoup moins de monde que lors des grandes manifestations de 2016 contre la loi travail. Sandrine Gérard, secrétaire générale de la CGT du Havre.
C'est une première, il faut qu'on se mette en route. Je pense que l'effet un peu tardif, effectivement, de la mise en place de cette journée interprofessionnelle a fait que peut-être qu'à un moment donné, il y a peut-être aussi besoin d'aller de nouveau dans les boîtes, revoir nos collègues, rediscuter. Il faut de nouveau redynamiser tout ça. Donc on va s'y atteler tous.
Il y a ce midi au Havre et selon la police, 5 à 6 000 manifestants.
Reportage Frédéric Veil. Sachez qu'à Paris, le cortège partira tout à l'heure à 14h de Montparnasse, direction la Porte d'Italie. Pour aller plus loin, nous sommes avec Christian Bourreau, vice-président de la Confédération française des retraités. Bonjour.
Bonjour.
Les principales organisations de représentants de retraités ne sont pas présentes aujourd'hui dans les manifestations, mais les retraités sont venus à titre individuel. Pour quelles raisons ?
Eh bien, écoutez, cette manifestation était organisée par certaines organisations syndicales.
Oui.
Nous sommes, nous, une organisation sans appartenance ni syndicale, ni politique, ni de quelque nature que ce soit. Mmh. Nous sommes bien entendu très attachés, si vous voulez, aux problèmes concernant les retraités, mais cette manifestation des organisations syndicales, donc nous n'avons pas appelé à cette manifestation. Nous n'y étions pas invités, d'ailleurs.
Mais justement,
mais pour autant,
vous
le problème
pas,
des retraités est un problème des retraités qui nous intéresse.
Vous n'étiez pas invité, vous avez le sentiment d'être un peu méprisé par les grosses centrales comme la CGT Force Ouvrière ?
Bon, je ne dirais pas ça. Je dirais que les organisations syndicales s'arrangent entre elles pour organiser des manifestations. Bon, elles estiment peu souhaitable d'avoir des associations non affiliées à des partis ou à des syndicats. Bon, ça, c'est leur choix, hein, c'est leur responsabilité. Pour notre part, bah, nous continuons notre combat, enfin, à notre manière, avec les moyens dont nous disposons. Mais les manifestations où on n'est pas souhaité, je dirais qu'on n'y participe pas en tant qu'organisation.
Mais allez-vous mobiliser de votre côté, par exemple, dans les jours à venir ?
Non, nous ne pensons pas faire organiser, si vous voulez, des manifestations de cet ordre. Nous sommes une association de bénévoles et nous ne disposons pas des moyens d'organisation dont disposent les organisations syndicales, que ce soit la CGT, Force ouvrière ou d'autres, si vous voulez.
Oui. Hein,
donc la manifestation n'est pas notre, c'est pas notre moyen d'action. Notre moyen d'action, c'est auprès des retraités, c'est auprès des responsables politiques, c'est auprès des commissions parlementaires, si vous voulez, qui s'occupent des questions des retraités, par notre presse, hein, et c'est par des interventions sur les radios ou les télévisions. Et une nouvelle fois, je vous remercie de nous donner la parole.
Mais je vous en prie, merci beaucoup Christian Bourreau d'avoir été l'invité d'RTL Midi. On a bien compris que les retraités feront entendre leur voix autrement, mais qu'ils seront présents quand même. Merci beaucoup. 17 réfugiés du navire humanitaire Aquarius sont arrivés ce matin à Paris. La France s'était engagée à les accueillir. Il y a notamment 3 femmes et 4 enfants, pour la plupart des Libyens. Ils devraient être répartis dans des centres d'hébergement dans l'Aube, la Haute-Marne, Lyon et les Vosges.
RTL Midi avec Christelle Robière.
Laetitia Hallyday de retour en France. Elle vient faire la promotion de l'album de Johnny, Mon pays, c'est l'amour, qui sortira dans 10 jours. Et l'heure est à l'apaisement dans la famille. Les uns et les autres cherchent une solution équitable sur l'héritage. Qu'en disent les fans? Vous les avez rencontrés, Mourad Djabari, ce matin à l'église de la Madeleine à Paris, où comme tous les 9 du mois, une messe est célébrée en l'honneur du rocker.
À l'entrée de l'église, face à l'autel, un portrait du chanteur et un livre d'or. Il se noircit en quelques minutes de mots à la mémoire de Johnny. Entre l'Alléluia et Retiens la nuit, Isabelle prie, elle vient à la messe chaque mois.
Eh ben moi, ça fait au moins 5-6 mois que je viens, je suis toutes les messes en permanence. Et ce qu'il y a de beau dans les messes, en fin de compte, c'est que les chants sont basés sur la musique de Johnny. On a un guitariste aussi qui joue et c'est super, quoi.
Alors que la mort du chanteur avait déchiré la famille, Laetitia d'un côté et Laura et David de l'autre, les discussions entre les deux clans ont repris via leur avocat. Une bonne nouvelle selon Christophe.
Très bien, très bien. Il faut s'arranger, il faut trouver une solution. Johnny, il n'aurait pas aimé ça, c'est évident. Lui, il avait le cœur sur la main. Oui, il faut que ça s'arrange, il faut absolument trouver un accord pour que tout le monde s'entende, quoi.
Au milieu de la cinquantaine de fans présentes dans l'église, Marie souffle, mieux vaut tard que jamais, dit-elle.
Je pense que Laetitia aurait été estimée par les fans s'il y avait eu un arrangement dès le départ. Là, elle a fort à faire pour que les fans reviennent vers elle. On a quand même quelque part une rancœur.
Réglons cette affaire au plus vite. C'est le mot d'ordre des fans de Johnny Hallyday pour enfin laisser reposer le chanteur en paix.
Reportage Mourad Djabari à l'église de la Madeleine à Paris. Voir et être vu, c'est une question de sécurité pour les cyclistes. L'an dernier, 173 personnes ont perdu la vie à vélo, soit 11 morts de plus que l'année précédente. La prévention routière et MMA se mobilisent car près de 6 cyclistes sur 10 roulent dans la pénombre, mal éclairés, Eric Vanier.
Oui, 57% exactement selon l'enquête réalisée dans 10 grandes villes, dont Paris. Il y a même 37% des vélos qui roulent la nuit sans éclairage du tout. Et ce n'est pas compensé par le port de gilets ou de brassards réfléchissants, puisque 17% seulement des cyclistes en disposent, ni par des vêtements clairs, blancs par exemple, qui seraient un moindre mal. Résultat, en hiver, et on y arrive, 40% des accidents impliquant des cyclistes ont lieu la nuit. Cécile Lecher, qui s'occupe des risques sur la route chez l'assureur MMA, essaie d'expliquer ce manque de rigueur que l'on a constaté quand on roule à vélo dans le noir.
On a la sensation en ville de ne pas être vulnérable. On dispose de l'éclairage public. On voit bien les voitures, elles sont volumineuses, des gros phares. Les cyclistes n'ont pas forcément conscience que eux ne sont pas vus de la même manière. Mettez votre vélo aux normes et vous êtes en sécurité. Vous améliorez votre visibilité et donc diminuez le risque d'accident.
D'autant plus, sachez-le, qu'un défaut d'éclairage sur un vélo, eh bien, c'est passible d'une amende de 35 euros.
Voilà, merci Eric Vanier. Enfin, il y a 40 ans disparaissait Jacques Brel.
Ne me quitte pas.
Il faut oublier, tout peut s'oublier.
Ne me quitte
qui s'enfuit
pas.
Déjà. Oublier.
C'était C'est son plus gros succès, repris par plus de 200 artistes dans le monde, un record, et pourtant il y a un malentendu. Ce n'est pas une chanson d'amour, mais un hymne à la lâcheté des hommes, disait Jacques Brel, une chanson révolutionnaire à l'époque qui agaçait beaucoup Edith Piaf. Un homme, disait-elle, ne devrait pas chanter des trucs comme ça. Je sens que ça vous intéresse.
Bah, c'est vrai que les hommes sont d'une lâcheté terrible en matière d'amour, vous le savez bien.
Oui, sans commentaire, mais je pense que vous avez des choses à nous raconter.
j'ai écouté, effectivement. Alors, j'ai écouté Alain Duhamel.
Oui.
Alors, le profil du ministre de l'Intérieur, comme on n'a pas l'homme idoine, si j'ai bien compris, on va en avoir deux. Pourquoi pas ?
C'est une hypothèse.
Voilà, oui. Un grand politique.
Et un technique.
Et un technique. Alors, est-ce que c'était Pascua Pandro ? C'était peut-être ça en 86 ? En tout cas, vous pouvez évidemment réagir sur la composition de ce nouveau gouvernement qui s'éternise. Et bien sûr, on va parler de Brel, donc on va même chanter.
À tout à l'heure, c'est votre exercice favori ça. La météo, Louis Baudin. Seule l'Occitanie essuie des trombes d'eau aujourd'hui.
Oui, je suis à les images radar, les images satellites. C'est vrai qu'on a de l'activité en ce moment là entre Toulouse, Carcassonne, en remontant vers le sud du Massif central. Bon, ça reste un peu limité pour l'instant par rapport à ce que l'on attendait, mais le risque existera tout au long de l'après-midi, principalement entre Toulouse, Carcassonne, Montpellier, le sud de l'Auvergne. On aura donc ce risque d'averse parfois accompagné d'orages. De part et d'autre, un peu plus de nuages près des Pyrénées ou dans la vallée du Rhône, et puis ailleurs, c'est bien le soleil qui s'imposera, même si je vois encore quelques nuages bas dans la vallée de la Saône. Du soleil avec des températures du coup très douces pour la saison, encore une fois, 21 à 26 degrés au nord comme au sud. C'est très homogène cet après-midi.
Mm-hmm. Et demain, toujours cet épisode méditerranéen dans le sud.
Exactement, et qui reprend de plus belle d'ailleurs, hein, puisque dans toutes les régions du sud, quasiment de l'Aquitaine jusqu'aux Alpes, à la Méditerranée, on aura de nouveau de l'instabilité, des averses, voire des orages soutenus une nouvelle fois, principalement dans le Languedoc. Mais donc toute la moitié sud connaîtra une dégradation. Cette dégradation remontera également vers la Bretagne. Et puis dans le nord et le nord-est, en Ile-de-France, encore en région Rhône-Alpes, c'est encore le soleil qui dominera. Tout ça avec des températures toujours très douces, hein, comparables à celles d'aujourd'hui. 21 à 25 au moins l'après-midi.
Merci Louis. Dans un instant, le rappel des titres avec Bénédicte Tassard. RTL Midi.